Reconnue centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose l'émission Instant Europe.
Alors bienvenue dans cette nouvelle émission Instant Europe sur l'autre radio. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel, souvent évoqué mais parfois méconnu, la défense européenne. Alors, dans un contexte international marqué par des tensions croissantes, la question de l'autonomie stratégique de l'Europe se pose avec de plus en plus d'insistance. L'Union européenne, historiquement perçue comme un projet de paix, doit-elle devenir une puissance militaire? Peut-elle assurer sa propre sécurité sans dépendre des États-Unis et de l'OTAN? Quels sont les défis et les obstacles à la construction d'une véritable politique de défense commune. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui en studio une spécialiste des questions européennes, journaliste et membre du réseau Team Europe, Yulia Badea-Guerité. Vous êtes ancienne journaliste pour le Courrier International et aujourd'hui responsable de la communication à la Maison de l'Europe de Paris. Vous suivez de près les grandes évolutions politiques du continent. Ensemble, justement, nous allons tenter de comprendre les enjeux de la guerre, de la défense et de l'armée européenne dans un échange éclairé et accessible à tous. Bonjour Yulia et bienvenue dans Instant Europe.
Merci beaucoup et bonjour.
Alors, je le disais, vous êtes journaliste et membre du réseau Team Europe, un réseau d'experts sur les questions européennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est ce réseau-là ?
Ce réseau-là est une équipe, disons comme ça, parce qu'on est, vraiment comme une équipe d'environ 50 personnes. Nous sommes recrutés via le CV et puis une lettre de motivation sur nos compétences et notre expérience en matière d'institutions, histoire et valeurs européennes par la représentation de la Commission européenne en France. Normalement, le concept Team Europe dérive directement dans les centres Europe Direct, dans le sens où ce ne sont pas des centres, mais des personnes qui ont le droit, entre guillemets, de parler de l'Europe parce que ces personnes ont l'expertise nécessaire. Concrètement, on n'est pas des fonctionnaires européens, mais on est des personnes qui, de près ou de loin, nous avons touché tout ce qui consiste et tout ce qui concerne les institutions et leur fonctionnement. Par exemple, des professeurs, des anciens professeurs, des sociologues à la retraite, des écrivains, ça peut être aussi des conférenciers, ça peut être des journalistes ou des anciens journalistes, des scientifiques, des chercheurs qui ont envie de s'engager, entre guillemets, bénévolement, parce que notre travail est bénévole. Nous allons là où nous sommes sollicités, donc là, voilà, je suis à Laval, je suis heureuse de revenir, je suis venue il y a 3 ans. Mais dans ma qualité de Team Europe, seulement la première fois, et donc j'ai intégré ce réseau, je trouvais que c'était une idée géniale de pouvoir donner de ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire aux autres, dans ces matières européennes, encore une fois, bénévolement, et là où on est sollicité.
Alors, l'Europe a longtemps été un projet de paix après les conflits du XXe siècle. Je le disais tout à l'heure, pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'une défense européenne alors que l'Union européenne n'a jamais été pensée comme une puissance militaire ?
Bah, ma foi, parce que la guerre, elle est à nos portes. Et puis, les choses ne se sont pas passées comme les pères fondateurs l'ont pensé, même si, il faut l'avouer, dès le début, Jean Monnet, un des pères fondateurs de l'Europe français, avait réfléchi et proposé, on retrouve ça dans ses mémoires, la création d'une armée européenne. Très vite, après la création de la communauté européenne de l'acier, du charbon et de l'acier, il avait quand même proposé au niveau européen, la création d'une superpuissance, d'une forme dans laquelle toutes les nations, il parlait à l'époque de la Fédération européenne des armées. Il y a eu des discussions à ce sujet et à l'époque, le sujet a été très vite enterré, tué pratiquement, je suis désolée de le dire, mais par la France. C'est en Assemblée nationale et avec l'influence aussi du général Charles de Gaulle qui a voté contre ce projet. Donc on n'a pas une armée européenne aujourd'hui, on n'a pas une défense européenne aujourd'hui, à la fois parce que l'Europe a été créée pour la paix, dans le but de la paix. Et on n'avait jamais pensé qu'on va avoir de nouveau la menace d'une autre guerre, d'une troisième guerre mondiale à nos portes. Et donc personne ne pensait que l'Europe ou l'Union européenne devrait avoir affaire avec cela. Deuxième raison pour laquelle on n'a pas une armée européenne, c'est qu'on a, enterré, comme je disais, ce projet. Il y avait la peur que dans cette armée, on pourrait avoir des soldats allemands. Or, les traumas de la guerre étaient là encore. Et, les Allemands parlent par deux fois. Et troisièmement, le moment à l'époque n'était pas pour l'armée, mais pour la reconstruction de l'Europe après la guerre, pour la politique agricole commune, le marché unique, voilà. Et donc, au fil de l'histoire, on a plusieurs fois pensé à une défense, à un projet de défense, à une armée ou à une mise en commun de nos forces. Mais chaque fois, il y avait un pays ou un autre. Et comme je peux vous partager, hein, la défense n'est pas une politique, une compétence exclusive de la Commission européenne, des institutions européennes. Ce n'est même pas une politique ou une compétence partagée, comme c'est la politique agricole commune. C'est une compétence particulière. On appelle comme ça parce qu'on ne sait pas trop où la mettre. Il y a toujours eu des pays qui disaient « on veut une armée européenne », d'autres qui disaient « on ne veut pas ». La défense, c'est notre affaire nationale. Donc, dans cette histoire de défense européenne, on est plus souverainiste que tous. Le problème, c'est que, voilà, depuis 2014, parce que c'est là que ça a commencé vraiment, et l'invasion de la Crimée et l'annexion de la Crimée par la Russie, on se retrouve avec une autre menace. On se retrouve, c'est de nouveau dit, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi je l'utilise tant, parce que les pays de l'Est ont toujours soutenu que la Russie n'est pas morte. Et il ne faut pas qu'on oublie que Poutine est au pouvoir depuis 1999. Donc très vite après la dissolution de l'Union soviétique, Poutine arrive au pouvoir et dit « mais je ne suis pas d'accord, on a perdu de notre puissance, je veux refaire ça ». Et il l'a dit en permanence, personne ne l'a écouté. Et donc les pays de l'Est n'ont jamais été écoutés. Je parlais tout à l'heure dans un lycée en Mayenne qu'on a été myope. Et Enrico Letta, l'ancien premier ministre italien et qui est le président de l'Institut Jacques Delors, le dit, on a été myopes tous en pensant que la Russie ne va pas montrer de nouveau ses biceps, ses envies expansionnistes. Nous sommes là, après 2014, on a cru qu'il va cesser, il n'a pas cessé, 24 février 2022. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on pense défense, malheureusement. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, pour faire court, c'est le fait que Trump est arrivé de nouveau au pouvoir. Il l'avait fait en 2017. Vous vous rappelez, donc, Poutine occupe la Crimée, Trump monte au pouvoir. Et bien, l'histoire se répète. Poutine déclare la guerre, envahit l'Ukraine de nouveau, et Trump de nouveau au pouvoir. Et en plus, il dit, comme on dit c'est aussi, si vous faites rien, je récupère mes jouets militaires, je les retire de l'Europe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux possibilités. On ne fait rien, et on est un peu démunis et comme une proie facile pour la Russie de Poutine, ou on essaye de se réorganiser, et c'est ça qui se passe en ce moment. Donc l'histoire nous oblige. Pour faire court.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal justement à s'accorder sur une politique de défense commune aujourd'hui dans un contexte comme celui-ci, comme celui que vous venez de décrire? Pourquoi c'est si compliqué entre tous ces pays?
Ah, c'est une autre longue histoire. Donc comme je disais, l'Union européenne est une très belle histoire mais très compliquée. Donc comme vous vous rappelez, à un certain moment... L'Allemagne de l'Est s'est séparée de l'Allemagne de l'Ouest, non pas parce qu'elle a voulu, mais parce que l'Union soviétique a imposé ses idéaux. On a vécu ce qu'on appelle un rideau de fer. Alors, le premier problème pour lequel on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est que tous les pays qui étaient sous influence ou dans le bloc soviétique, donc on parle de beaucoup de pays de l'Est, pays baltes, Pologne aussi, ces pays-là ont été dotés avec de l'armement de production soviétique, parce qu'elles étaient sous influence soviétique. Dans l'Europe occidentale, on s'est doté un tout petit peu avec ce qu'on avait d'armement occidental. En ce moment, si on voudrait, par exemple, envoyer des missiles français aux Polonais ou aux autres pays de l'Est, il y a un grand problème. Les canons ne sont pas de fabrication occidentale, mais de fabrication soviétique. Ça veut dire que ça ne matche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc on est très différents. Et comme la politique de la défense, comme je vous disais, ce n'est pas une politique, une compétence exclusive de l'Union européenne, pour que je rappelle les deux politiques exclusives sont la monnaie et les frontières, les douanes. Il n'y a pas une uniformisation.
Uniformisation. Voilà.
On est fragmenté. Donc chaque pays a des armes, c'est vrai. Chaque pays a des armes en quantité limitée, mais différentes. Comme si je disais, j'achète plusieurs types de fromage. Chaque pays a plusieurs types de fromage. On n'a pas un seul type de fromage qui soit unique pour tous. Donc, on ne peut pas créer une sorte de défense commune. Ça, c'est la première chose. Après, le service militaire. Il y a des pays qui l'ont interdit, interrompu, sorti des têtes totalement. Mais il y a des pays qui l'ont encore et qui n'ont jamais cessé d'avoir un service militaire obligatoire, comme l'Autriche et la Finlande. D'autres pays qui l'ont réintroduit après 2014. D'autres pays qui ont trouvé des subterfuges de services SNU, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses, donc il n'y a pas une uniformité au niveau européen. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est le phénomène du passager clandestin. Concept dans la science politique. Qui dit que le passager clandestin profite du train que les autres mettent en marche. Donc, du point de vue moral et psychologique, l'Europe est encore partagée. Il y a les pays de l'Est qui disent « il faut faire quelque chose, il faut se préparer, il faut préparer une valise avec qu'est-ce qu'on fait en cas de guerre. Il faut augmenter le budget de la défense, pour la défense. Il faut faire un service militaire à minima. » Les Danois qui introduisent le service militaire obligatoire pour les femmes. Les Russes sont dangereux et ils peuvent nous attaquer, il reste une menace. Et il y a les pays, dont l'Occident, nombreux, qui disent « bah, la guerre est loin, Poutine ne va jamais oser attaquer ». Et puis nous, en France, on a l'arme nucléaire, encore plus. Mais nous sommes les seuls des 27 qui avons l'arme nucléaire. Et donc c'est très compliqué, il y a toujours cette histoire et cette fracture entre l'Ouest et l'Est. Et cette myopie dont je vous parlais, et qui ne date pas d'hier ou d'avant-hier, mais depuis très, très, très nombreuses années, où on dit l'Est est paranoïaque, il a peur de Poutine. Donc c'est difficile de se mettre d'accord. Je pense quand même que les choses bougent. Dans la nouvelle commission de Ursula von der Leyen, qui a sorti il y a quelques jours le livre blanc de la défense, il y a déjà un souhait d'harmonisation et de désir de vouloir faire quelque chose en commun, comme c'était avec les vaccins, les masques du temps de Covid. Il y a eu d'autres signaux aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué que trois des plus importants commissaires européens viennent de l'Est, enfin. Donc la haute représentante pour la politique étrangère, c'est Kaja Kallas, estonienne, donc ça dit beaucoup. Le ministre qui s'occupe de la défense et de l'espace, il vient de Lituanie. Andrius Kubilius. Donc, il y a une volonté de donner plus de crédit au peuple de l'Est, au pays de l'Est. Donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué aussi parce que les institutions européennes sont compliquées et il faut des votes, il faut aussi que tout le monde soit d'accord. Et puis encore une fois, il faut que tout le monde pense vraiment que la Russie est une menace et qu'elle va continuer d'être.
En 2022, l'Union européenne a adopté ce qu'on appelle la boussole stratégique. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi c'est peut-être un tournant pour l'Europe de la défense ?
Alors, il faut partir du principe de la boussole. C'est quoi ? C'est un mécanisme qui nous montre le nord. Donc, boussole stratégique, on a compris assez vite, c'était comme une douche froide, que la Russie n'est plus... une blague, c'est plus quelque chose qui a pris un lopin de terre de l'Ukraine et que la Russie peut faire beaucoup plus. Parce qu'avant 2022, il y a eu 2014 et l'annexion de la Crimée, il y a eu les accords de Minsk, Minsk 2, et on a eu les promesses de Poutine qu'il va arrêter tout ça. De facto, et nous avons arrêté de le montrer à la télé et d'en parler à la radio, la guerre n'a jamais cessé en Ukraine. Depuis 2014, en permanence, il y a eu des luttes et des morts. Sauf que comme ce n'était pas très près de nous, on pensait que ça n'existe pas, ou certains pensaient. Et donc 2022, 24 février, ce fut un réveil très douloureux pour beaucoup des pays qui ont compris qu'il faut faire quelque chose. Et donc la boussole stratégique, c'est exactement ça. C'est le fait qu'on a eu une prise de conscience qui s'est traduite par une très très vite et très rapide désir d'agir et par un très rapide changement de position envers la Russie. Le premier exemple que j'ai en tête, c'est la manière dont on a décidé au niveau européen tous de devenir indépendants du point de vue énergétique et gazier de la Russie. Et ça, c'était quelque chose. Donc voilà, la boussole stratégique, c'était juste le fait que maintenant, et à partir de 2022, tous les 27 ont choisi une direction qu'ils essayent de mettre en pratique. Mais bon, on a le cap, on voit le nord, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ce sont les pas. C'était ça. Okay.
L'OTAN est souvent mentionnée dans les discussions aujourd'hui sur la défense européenne. Quel est son rôle aujourd'hui et comment l'Union européenne collabore-t-elle justement avec cette organisation militaire ?
L'OTAN, c'est encore une autre histoire, créée en 1949. Pourquoi ? Une bonne histoire. L'OTAN a été créée dès le début pour contrer un peu l'expansion soviétique. Déjà, à l'époque, on parlait de rideau de fer, de guerre froide. Et donc, on avait aussi conscience que l'Union soviétique, à l'époque, avait déjà commencé à influencer certains pays, que Staline, tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas content du fait qu'il y avait aussi les forces alliées à Berlin, les Français, les Anglais, les Américains. Et il a fait savoir ça. En plus, il s'est opposé à toute aide que pourrait venir de la part des Américains, des Français et des Anglais aux Allemands, aux Berlinois, qui, bon, il y a eu la guerre, mais eux aussi, ils étaient la plupart de la population détruite et en souffrance. Et donc, on a eu deux ripostes immédiates de la part des Américains, le plan Marshall en 1948 et l'OTAN en 1949. Donc, de mon point de vue, l'OTAN a fait et continuera à faire... continuera à faire sa mission, c'est-à-dire s'opposer à l'influence russe ou au pouvoir russe. Maintenant, il y a encore des degrés. Est-ce qu'on a besoin de l'OTAN ? Et visiblement, pour la plupart des pays de l'Union européenne, sauf la France, on a besoin de l'OTAN pour le simple fait qu'on n'a pas l'arme nucléaire, comme la France. Et donc, on a besoin de se protéger. Qui pourra nous protéger devant les Russes ? Encore une fois, je réitère, c'est important de garder en tête que les pays de l'Est ont toujours eu, et je pense qu'ils vont avoir toujours en tête, cette peur des Russes. C'est atavique, c'est dans nos gènes, je suis d'origine roumaine. C'est l'histoire qui nous a prouvé, et si vous discutez avec un Ukrainien ou un Polonais, il vous dira pareil, c'est l'histoire qui nous a appris qu'il faut se méfier des Russes, il faut... C'est compliqué, c'est triste de dire ça, parce que la Russie, c'est pas que la peur, il y a autre chose aussi, la culture, l'histoire et tout le reste. Mais ils avaient besoin de se protéger. Alors, qui peut les protéger des Russes, vu qu'on n'a pas l'arme nucléaire ? Et on n'a pas d'armée européenne, et on n'a pas de défense européenne. C'est l'OTAN. Et donc, pour de nombreux pays de l'Est, l'OTAN était vu même comme une priorité avant d'entrer en Union européenne. Et pareil, l'histoire nous a appris et leur a appris que la seule puissance qui peut s'opposer, ou non pas s'opposer, tenir tête déjà aux Russes, ce sont les Américains. Les Américains ont beaucoup des points dans l'OTAN. Maintenant, même dans le livre blanc aussi, il y a une volonté, c'est écrit, et je trouvais ça intéressant, d'essayer de devenir aussi indépendant et même essayer de prendre plus de place dans l'OTAN. Voilà, c'est un fait. La plupart des pays de l'Union européenne, des 27, sont dans l'OTAN. Même ceux qui n'étaient pas ou qui étaient du point de vue historique neutre, comme la Suède par exemple, ont décidé, dès que la Russie a attaqué l'Ukraine en 2022, de demander d'entrer tout de suite dans l'OTAN. Donc oui, on a... Et puis encore une fois, historiquement, il faut savoir que, oui, j'ai oublié de mentionner, on n'a pas d'armée européenne et de défense européenne parce que c'était facile pour nous, Européens, de se dire s'il y a un problème, l'OTAN et les États-Unis nous aideront. C'était la solution facile parce que, encore une fois, on était après la Deuxième Guerre mondiale, on était détruits. Pas d'école, pas de commerce, pas de logement. L'être humain est fait de manière qu'il essaye de résoudre d'abord les problèmes urgents et après les problèmes à long terme.
Vous le disiez, la France est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Alors quel impact cela a-t-il réellement sur les discussions européennes et même sur les tensions actuelles avec Poutine ? Est-ce que c'est réellement une dissuasion aujourd'hui ?
Oui et non, parce qu'il y a l'arme nucléaire et il y a les boucliers nucléaires. Donc les boucliers ne se trouvent pas en France. Se trouvent en Roumanie, en Pologne, là où ils ont été mis. La France a l'arme nucléaire, elle est une force de dissuasion, mais du point de vue des ogives, la Russie a beaucoup plus. Et les États-Unis aussi ont beaucoup plus. Nous, on n'a pas beaucoup, mais quand même, une dissuasion, c'est comme un chat. Ça va empêcher les rats de venir dans la chambre ou dans la maison où il y a des chats. C'est un outil de dissuasion et même de diplomatie important. Et j'ai observé récemment qu'on parle de on parle souvent de la manière dont on pourrait faire profiter tous les États membres de cette parapluie nucléaire qu'a la France. Ce n'est pas une mauvaise idée. L'idée est de voir par contre comment la mettre en pratique. Parce que l'idée en soi, elle est bonne. La pratique et la mise en pratique, c'est autre chose aussi. Par contre, le régime des armes nucléaires est très bien réglementé. Je doute qu'il y aura un jour d'autres armes nucléaires dans d'autres pays États membres. La France restera la seule qui a l'arme nucléaire. Il faudra voir comment protéger les autres. Il y a deux articles de loi qui protègent déjà. Il y a un qui est très connu. C'est dans le règlement de l'OTAN qui dit que si un pays est membre de l'OTAN est attaqué, les autres vont venir en aide. Et puis il y a celui qui est moins connu mais qui existe, c'est l'article 42.7 du traité de Lisbonne européen qui dit pareil, si un État membre est attaqué, les autres viennent en aide. Et peut-être vous avez observé le ballet diplomatique fait par la première ministre finnoise qui, tout de suite que Trump a menacé avec des idées de possession, de récupération, d'invasion, etc., de Groenland, a commencé à visiter les capitales européennes pour s'assurer qu'en cas de quelque chose, cet article va être respecté. Ça, c'est bien, mais il y a des pays qui ne sont ni dans l'Union européenne et ni membres de l'OTAN. Et je parle surtout de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie. L'Ukraine est déjà attaquée. En Moldavie, vous avez un lopin de terre qui s'appelle la Transnistrie, qui n'est pas attaqué, mais qui est sécessionniste et où il y a environ 1 500 militaires russes. Le plus problématique, c'est qu'il y a une population russophone. On ne sait jamais si Poutine n'invoquera pas les mêmes motifs qu'en Ukraine en disant « je dois défendre les intérêts de la population russophone ». Et pareil pour la Géorgie. On a l'Ossétie du Sud. Donc ces pays se disent, je ne suis pas dans l'OTAN, je ne suis pas dans l'UE, est-ce que quelqu'un va donner sa vie pour moi? Donc il y a, oui, un problématique de ce point de vue aussi.
On parle souvent aussi de coopération militaire entre les pays européens, notamment sur l'industrie de l'armement. Il y a des projets comme Airbus ou Dassault. Est-ce que c'est un pas vers une armée justement européenne ou simplement une façon de renforcer aussi les industries nationales?
Airbus et Dassault sont deux histoires de succès, c'est incontestable. Le problème des histoires de succès, c'est qu'au moment où il faut les appliquer dans d'autres pays, on se heurte des subtilités et des caractéristiques nationales. Et donc, les caractéristiques nationales de l'Europe de l'Est, on revient toujours là-bas, c'est qu'elles ont des problèmes à faire une sorte de arrangement entre ce qu'elles ont déjà comme armement et Airbus et Dassault. Il faut voir comment faire en sorte que ça soit possible, que le fonctionnement aille. C'est comme un vis et son boulon et le vis. Est-ce que sur un vis, on peut mettre n'importe quel boulon? Non, il faut mettre le boulon qui va. Et donc, Airbus, Dassault, c'est parfait, mais il faudrait qu'elles fassent comme entreprise des efforts pour fonctionner, pour que la compatibilité existe avec ce que les autres États membres ont en stock. Et les États membres, pareil, ils devraient faire un effort financier aussi pour se doter des armements qui puissent aller avec les Airbus et Dassault. Donc c'est compliqué, encore une fois. Et aussi, il y a aussi question de la capacité de production. Récemment, la Pologne a été un peu montré du doigt en disant
OK, vous êtes arrivé à 4,7% dépenses du produit interne brut pour la défense. Vous avez acheté beaucoup d'armement et de tout ce que vous avez besoin du point de vue militaire, des chars et tout ça. Mais vous avez acheté en Corée du Sud. Problème, pourquoi vous n'avez pas acheté chez nous, en France, en Allemagne? Et récemment, on a eu à la Maison de l'Europe de Paris l'ambassadeur polonais en France qui nous a donné sa part de l'histoire. Dans chaque histoire, il y a les deux parties, non? Dans chaque conflit, pas dans chaque histoire. Il dit, mais on a eu un problème parce qu'on a voulu acheter une grande quantité et on n'a pas trouvé en Europe. Quand on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut en acheter ici, on nous a dit, ben, on peut vous fabriquer dans 5 ans, dans 10 ans, où on peut vous fabriquer en quantité limitée. Poutine n'a pas... Et il ne va pas attendre 5 ans ou 10 ans. Donc la Pologne veut se réarmer maintenant. Et d'ailleurs, elle fait des efforts. Hein. On parle déjà du fait que la première armée européenne va être... La plus nombreuse va être polonaise. On sait déjà que la Pologne est la deuxième armée la plus importante dans le cadre de l'OTAN. Et comme je vous disais, c'est le seul pays européen qui a 4,7% de ses dépenses... du produit interne brut pour la défense. Donc, voilà.
Yulia, je vous propose qu'on continue cet échange dans quelques instants. Juste avant le début de cette émission, on échangeait sur un morceau. Il s'agissait de In the Army Now, de Statu Quo. Donc, je vous propose qu'on écoute ça maintenant et on se retrouve juste après.
Now, oh, you're in the army now.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Instant Europe sur l'autre radio. Aujourd'hui, en partenariat donc avec la Maison de l'Europe de la Mayenne, nous parlons de la défense européenne, de ses enjeux, de ses limites et de ce que pourrait devenir l'Europe face aux défis géopolitiques actuels. Alors, mon invité aujourd'hui est Yulia Badea-Guerité, journaliste et membre du réseau Team Europe. Et donc, pour continuer cet échange, Yulia, j'avais envie de vous demander, un des défis majeurs de l'armée européenne serait peut-être le financement. Est-ce que l'Union européenne pourrait envisager justement un budget commun pour la défense, comme elle le fait déjà pour d'autres domaines?
C'est en route, et la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà prévu dans le livre blanc de la défense qui est sorti le 19 mars, exactement comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'avait promis il y a déjà une année, en 2024. Alors l'idée vient d'elle, mais avec un exemple et un appui assez important et intéressant qui vient de Kaja Kallas, la haute représentante pour les affaires étrangères. Elle est estonienne, encore une fois. Et donc elle sait, elle est consciente du danger russe. Elle avait proposé dès sa nomination qu'on mette en place au niveau européen un budget commun, un budget par lequel l'Union européenne puisse acheter, exactement comme elle l'a fait au moment de la Covid avec les vaccins et les masques, donc s'imprimer sur les marchés financiers mondiaux et à faire en sorte que tout le monde, tous les États membres puissent avoir des vaccins. Vous vous rappelez, ça a fonctionné. C'était, comme disait Jean Monnet, une manière de montrer que l'Union européenne se fait dans les provocations. La guerre est une autre provocation. Le fait qu'on fasse quelque chose, c'est une autre provocation. Troisième chose qui s'est passée dans le bureau ovale, on nous a montré qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que l'Union européenne, cette fois-ci, elle est vraiment seule. Et donc, Kaja Kallas a poussé cette idée. Ursula von der Leyen avait promis un livre blanc de la défense. Voilà, dans le livre blanc de la défense, c'est écrit que, premièrement, il existe déjà un budget pour pouvoir acheter en commun pour les États membres, donc de manière uniforme, de l'armement. Deuxième chose importante, le livre blanc n'est pas très grand, 23 pages, mais il est très précis. Deuxième chose très intéressante, il y a un fonds pour acheter et pour se défendre, donc matériel militaire, qui est mis à la disposition de tous les États membres, libre à elles de l'utiliser comme ils le souhaitent. Et troisième chose très importante, je vous disais que les dépenses pour la défense ne sont pas uniformes. Il y a 4,7% pour la Pologne de dépenses pour la défense. Il y a 2,1% pour la France. Les pays baltes, 3, quelque chose. Mais il y a des pays qui n'en font pas autant, 1%. Donc c'est un problème aussi. Et donc, la plupart des pays disent qu'on ne peut pas dépenser plus parce qu'on va dépasser les 3% qu'on peut avoir dans le cadre du déficit budgétaire européen. Donc, la troisième mesure la plus importante, c'est que, pareil à la proposition de la France et de l'Italie qui ont beaucoup embrassé cette possibilité, Ursula von der Leyen, la Commission européenne, a donné feu vert, libre service aux pays, aux 27, de augmenter leur pourcentage de dépenses militaires en leur disant ces dépenses ne font pas partie du 3% de déficit budgétaire. C'est une grande avancée parce que c'était une des grandes peurs des États membres, ne pas dépasser ce déficit. Ce qui veut dire que désormais les pays peuvent augmenter leur budget défense. Et déjà une harmonisation à ce niveau, ça pourrait faire beaucoup, inclusivement comme pouvoir de dissuasion. Je vous donne un exemple. Les dépenses de la Russie pour la défense sont de 9%. La moyenne des 27 en ce moment, c'est de 1,3%. C'est incomparable, c'est injustifiable et on ne peut pas les comparer. C'est comme, David et Goliath. Donc il faut faire quelque chose, il faut être astucieux. Je pense que le livret blanc est une bonne mesure et il faut le faire assez vite. Je rappelais tout à l'heure aussi que ces questions de mentalité, je pense qu'on devrait tous penser à la paix, mais on se préparait pour la pire. Comme disait un dicton latin, si on veut la paix, il faut se préparer pour la guerre. Cela ne va pas jusqu'à dire il faut qu'on entre tous en mouvement pour faire la guerre. Il faut juste se préparer au pire parce qu'on ne sait jamais. Et une bonne idée, je pense, ça serait d'être préparé si tel sera le cas, plutôt que d'être trouvé mal préparé et regretter de ne pas l'avoir fait.
Alors, les guerres d'aujourd'hui ne sont plus seulement militaires. On peut parler aussi de cyberattaques, de désinformation, d'ingérence étrangère. L'Union européenne, est-ce qu'elle est préparée aussi à ces nouvelles formes de conflits ?
Oui et non, encore. Donc, les guerres informatiques et les cyberattaques, les fake news, la désinformation, la malinformation et même la mésinformation existent depuis toujours. Et donc, la Russie n'a pas commencé à les pratiquer en 2022. Non, il y a bien longtemps. On est assez bien préparé et même très bien préparé en France. Je cite seulement une grande opération d'envergure, donc grande, pleonasme, des Russes. Ça s'appelait Doppelganger. C'était en 2022 quand les Russes ont dupliqué, donc Doppelganger signifie saucisse maléfique en allemand. Ils ont dupliqué des sites du ministère des Affaires extérieures français, le site du Monde, le site du Figaro, donc des sites considérés comme de confiance par le public français, par les Français en général, et pas par eux, quoi, toute l'Europe. Et donc, ils les ont dupliqués vraiment à l'identique, avec logo, avec titre, avec rubrique. Mais l'information propagée était de manière et de nature à faire détourner l'opinion publique de sa sympathie pour l'Ukraine, à essayer de faire croire qu'on dépense beaucoup pour des choses qui ne valent pas la peine. Par exemple, une des attaques très importantes, c'était celle où c'était écrit que pour chaque transaction bancaire effectuée en France, 1,5% du montant de la personne qui effectue la transaction va en Ukraine. Donc immense somme dépensée pour le contribuable français. Et donc les services français ont réussi à démanteler ça. Et ce n'est pas le premier. Donc on est assez bien préparé. Le problème, et c'est là le non, oui et non, c'est que l'opinion publique n'a pas encore pris la conscience du fait que quand on apprend quelque chose qui semble démesuré, qui semble irréel, qui semble totalement négatif et catastrophique, le bon réflexe est de vérifier. Vérifier avec une autre source, vérifier avec l'origine d'où on pense que vient la source, vérifier avec des sites officiels, vérifier, contrôler et mettre son bon sens au profit. Est-ce que cette nouvelle pense être ou peut être réelle? Est-ce que j'ai intérêt à croire? Et surtout, je le disais ce matin au lycéen, les fausses nouvelles et la désinformation ne circulent pas seules. Elles sont transmises, elles sont transférées. Au moment où on fait transférer à la voisine, aux collègues, à tout le groupe que j'ai sur WhatsApp ou sur Facebook, je ne fais que propager une fake news, une désinformation. On devrait avoir tous plus de responsabilité, de conscience civique, de conscience européenne, comme vous voulez, pour ne pas croire tout ce qu'on nous dit. On devrait essayer de comparer les faits, de les vérifier, de passer un coup de fil s'il le faut. Il y a des numéros de téléphone ouverts en permanence sur le site du ministère des Affaires étrangères, sur les pages dédiées à l'Ukraine, par exemple, dans le cas concret, et essayer de voir si c'est vrai ou pas.
Parmi les problématiques actuelles qu'on peut rencontrer quand on parle de défense, on a pu échanger ensemble là-dessus lors de la pause musicale, c'est qu'il n'y a pas de Schengen, d'espace Schengen de la défense. Et alors ça, j'ai trouvé ça intéressant puisque c'est quelque chose qu'on évoque très très peu finalement.
Oui, donc comme j'aime bien le répéter depuis que j'ai lu l'excellent livre de Henri Coletta. Donc c'est un livre qui parle de son voyage en Europe, dans tous les États membres, quand à la demande de la Commission européenne, il a dû faire un rapport sur le marché unique. Le rapport s'appelle « Much more than a market ». Il a été écrit en anglais. Et le livre, paru chez Odile Jacob, raconte son voyage en Europe. Et au retour, il fait part de quelques observations assez intéressantes. Premièrement, celle que vous évoquez, il n'y a pas un espace Schengen pour la défense. Donc aujourd'hui, si un convoi militaire ou un transport de factures militaires, ça peut être des soldats ou des outillages ou des chars, que sais-je, des missiles, doit circuler, doit traverser l'Europe de Paris jusqu'en Pologne ou jusqu'aux Pays-Baltes, ce convoi doit passer toutes les frontières, s'arrêter, être contrôlé, donc perdre du temps afin et avant d'arriver à la destination, ce qui complique beaucoup les choses. On n'a pas un marché unique pour l'armement. Il faudra travailler aussi cela. On n'a pas de... Un autre exemple anecdotique. On n'a pas la conscience du fait que, puisque les pays de l'Est étaient sous influence soviétique ou faisaient partie du bloc soviétique, leur rail, l'écartement de rail est différent. Donc si un train part aujourd'hui de Paris pour arriver dans les pays baltes avec de l'armement, encore une fois, avec ce qu'il faut, ben, il va s'arrêter à la frontière parce qu'il faut changer les roues. Et c'est compliqué, ça dure environ 5-6 heures, soulever le train, retirer les roues comme à une voiture de Formule 1. Donc tout ça, ce sont des réalités. On parle des réalités qui existent et qui font, pareil, il a avancé ces chiffres, on a besoin de 60 jours pour envoyer un bataillon d'ici jusque-là. C'est beaucoup, en 60 jours, l'armée de Poutine peut, ou lui-même peut faire beaucoup de choses. Donc il y a des obstacles dans la manière dont on veut, comme vous le disiez, de faire en sorte que ça fonctionne ensemble au niveau européen. Pas seulement une seule voix, mais de la même manière pour tous. Donc pour le Schengen, pour ces histoires de rails, et pour, je pense qu'il y a aussi question de manière dont on communique avec les autres. On est différent dans l'Union européenne. Donc peut-être qu'avant de décider quelque chose, il vaudrait mieux s'informer sur quelles sont les habitudes, quelles sont les situations existantes dans les pays où on veut envoyer des troupes, etc., etc. Mais la France est bien présente, et c'est une bonne nouvelle. Elle fait beaucoup pour les pays de l'Est. Elle est présente en Estonie, elle est présente en Pologne, elle est présente en Roumanie. Elle a des partenariats avec la Moldavie même. Donc la France a encore une fois la volonté et elle réussit à montrer qu'elle a été présente dans toutes les grandes décisions de la construction européenne. La France-Allemagne. Donc le couple franco-allemand fonctionne. Et bon, on n'a pas la puissance nucléaire pour rien. On a aussi les acquis et les connaissances militaires. Et je pense que ça compte. Qu'il s'agisse de la guerre informationnelle, comme vous avez dit, de la guerre morale, de la guerre sur le front, ou si, même si on parle des drones, de guerre maritime, parce que là, on parle aussi de la mer Noire. Voilà, on n'a pas parlé du tout de la mer Noire, mais c'est un autre enjeu stratégique. Et la France est présente. Il faut juste voir les détails techniques qui sont spécifiques à chaque pays et puis trouver l'harmonisation européenne ou trouver l'astuce qui pourrait faciliter ce mouvement qui dit... Si demain l'Estonie est attaquée, disons, comment faire pour que la France et les autres pays puissent venir dans son aide rapidement? Ça veut dire pas dans 60 jours, mais dans quelques heures, quelques jours.
Avec toutes ces problématiques qu'on a pu évoquer ensemble, justement, où en sommes-nous de l'aide que l'on apporte à l'Ukraine concrètement? Quel est le plan militaire mis en place? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu peut-être dans un délai à court terme?
Le plus important, c'est que le désir d'aider l'Ukraine n'est pas mort. Il est là, il est soutenu par le livre blanc de la défense et il va vers une harmonisation et une action commune. Il va aussi avec la conscience du fait que peut-être demain les États-Unis ne seront plus dans l'OTAN ou ils vont avoir une partie moins importante dans l'OTAN. Donc l'Union européenne a clairement exprimé dans le livre blanc, on va essayer d'être plus présent dans les commandements de l'OTAN. C'est une chose très bonne. Ça veut dire qu'on ne va pas lâcher l'Ukraine. Il y a aussi les discussions qui existent autour d'un possible armistice. Là, il y a un autre danger. Il y a ceux qui disent qu'un armistice va résoudre le problème et il y aura une force de maintien de la paix formée par des soldats européens en Ukraine ou dans les pays voisins. Et là, la Russie dit non, je ne veux pas avoir des soldats, par exemple, qui sont voisins avec l'Ukraine, par exemple. elle veut pas, Poutine a dit, je veux pas de soldats roumains, polonais, estoniens en Ukraine, qui soit une force de dissuasion. Donc, on a une complication des choses ici. Deuxièmement, il y a encore les pays de l'Est qui disent ne croyez pas dans un armistice. Parce que pendant l'armistice, Poutine va faire exactement ce qu'il a fait en 2014. Il va se réarmer, il va se refaire les troupes et il va nous attaquer. Ce sont les Allemands aussi qui partagent cette idée. Ils soutiennent de plus en plus avec force. Il faut écouter les pays de l'Est et les, soit le faire signer une paix durable, soit le désarmer. On ne pourra pas croire dans un armistice. Donc le soutien à l'Ukraine existe. Est-ce qu'on va envoyer des troupes en Ukraine? Je ne crois pas. C'est très dangereux dans la mesure où Poutine va... Et il a dit, je pense qu'il est capable de faire ce qu'il dit. Il a dit que toute présence étrangère d'un pays UE dans l'Ukraine va être considérée comme un signal hostile envers la Russie. Donc c'est compliqué. Est-ce qu'on peut être plus présent dans la mer Noire? Non. Donc l'aide pour l'Ukraine... peut pas passer par une présence dissuasive dans la mer Noire parce que les Turcs ont fermé le détroit de Bosphore en conformité avec les accords de Montreux. Ils détiennent la puissance et le droit de dire qui rentre. Donc les Russes ne peuvent pas sortir, mais ni les navires de l'OTAN ne peuvent pas entrer. Donc on ne peut pas les aider du point de vue présence sur la mer Noire. Par contre, les Ukrainiens sont présents dans la mer Noire. Donc ça va. Du point de vue social, il y a une sorte de fatigue, disons, de l'opinion publique envers les immigrants ukrainiens. Et donc, on a beaucoup des personnes ukrainiennes qui viennent à la Maison de l'Europe à Paris et qui disent on est dans un impasse parce que l'opinion publique est lasse. Elle est fatiguée par la guerre, elle est fatiguée, et il faut le reconnaître, il y a un effort de guerre important qu'on paye tous les jours. Je parle de l'économie, je parle de l'inflation, je parle des salaires qui n'ont pas augmenté, je parle du fait qu'on est tous affectés d'une manière ou d'une autre par les conséquences de la guerre en Ukraine, même si la guerre n'est pas chez nous. La population est lasse et les immigrants ne trouvent plus l'aide qu'ils avaient jusque-là. Mais je pense qu'en grande majorité, quand même, l'opinion publique est du côté de l'Ukraine. Il y a beaucoup des spécialistes qui parlent du sujet. L'important, c'est de ne pas laisser le sujet mourir à la radio, dans les télés, sur les réseaux sociaux. Nous, quand on discute, qu'on ne fasse pas la même erreur qu'après 2014, qu'on a un peu oublié le sujet. Et si on ne le laisse pas mourir, on pourra être prêt. Donc l'Union européenne est prête. Nous, il faut qu'on fasse un peu plus d'efforts. Pour donner un exemple, il y a beaucoup de personnes ukrainiennes qui disent « j'arrive plus à trouver un travail parce que je n'ai plus de loyer ». Mais pourquoi tu n'as plus de loyer? Parce que la personne chez qui j'habitais et qui me permettait de payer un loyer modique me dit que c'est trop déjà, 3 ans. Donc, ou d'autres qui disent j'ai où habiter, j'ai tout, mais je ne peux pas, essayer de vivre mieux parce que j'ai juste un contrat en CDD. Ils ne m'ont pas fait un contrat en CDI parce qu'ils estiment que la guerre va se finir vite. Le problème, c'est que la guerre ne se finit pas assez vite. Donc, des problèmes de ce genre, de scolarisation aussi.
Je vous propose, avant d'entamer la troisième partie et la dernière partie de cette émission, de faire une pause musicale. Et on écoute donc Abracadabra de Lady Gaga. Et on se retrouve juste après.
All wrong. on the west side as the dust flies, watch it burn.
Alors, nous sommes de retour dans Instant Europe. On poursuit notre échange avec Yulia Badea-Guérité sur la thématique la guerre, la défense et l'armée européenne. On a parlé des origines de la défense européenne, de ses structures, de ses alliances dans cette dernière partie. Yulia, j'avais envie de vous demander, peut-être pour reprendre notre échange, comment se prennent ces décisions dans ces enjeux actuels d'une potentielle armée européenne, dans une potentielle, d'un potentiel budget pour une défense européenne. Comment ça se passe, comment ça se décide et en combien de temps potentiellement ça peut se prendre ces décisions-là?
Du point de vue temps, ça peut se faire très vite ou très lentement. Très vite, c'est l'exemple de l'accord sur l'achat en commun des vaccins et des masques. Oui. C'était une épreuve, un état d'urgence majeur. Et si on retourne en arrière et on revoit l'histoire, on a vu que c'était une décision qui est vite passée par le Parlement européen, qui vote en majorité. Et tous les États membres ont été d'accord, ce qui veut dire l'unanimité dans le Conseil de l'Union européenne. La politique de défense, c'est une compétence particulière, comme je l'ai répété. Donc elle n'est pas une compétence exclusive de l'Union européenne, de la Commission européenne. Concrètement, ça veut dire qu'elle n'est ni politique financière ni politique douanière, les deux compétences exclusives. Qu'est-ce que ça signifie une compétence particulière ? D'ailleurs, oui, n'oublions pas que jusqu'à présent, jusqu'à la nouvelle commission Ursula von der Leyen, on n'avait même pas de commissaire à la défense. Le commissaire français Thierry Breton s'occupait du marché intérieur, de la défense et de l'espace. Donc c'était en commun, c'était pas un portfolio séparé. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, la Commission européenne a un commissaire dédié à la défense. Donc on peut parler défense. Conformément au traité, la décision est prise par les institutions européennes. Mais les institutions européennes ne fonctionnent pas toutes à la manière identique. Le Parlement approuve par majorité. On a 720 députés. Par exemple, pour une décision de budget de défense, pour une décision d'armée, pour une décision très importante et qui implique et qui s'applique à tous les États membres, il faut que le Parlement vote par majorité. Ce n'est pas suffisant, puisque le Parlement est en codécision avec le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne est présidé chaque 6 mois par un pays. En ce moment, c'est la Pologne. La Pologne, par rotation, la Pologne a eu comme slogan « Sécurité Europe ». Ce qui veut dire que c'est un pays qui va pousser pour une plus grande présence dans les décisions concernant la défense. Le problème du Conseil de l'Union européenne, c'est que le vote, c'est à l'unanimité. Concrètement, cela veut dire que pour appliquer au niveau communautaire, c'est que le Parlement européen, disons, a déjà voté par majorité, donc partagé 720 ou 50% plus 1, il faut que tous les 27 États membres soient d'accord. Quand j'ai dit tous, ça veut dire tous, pas un État qui est absent. Ça devient compliqué, c'est pour ça que je dis ça peut être très court ou très long. Pour les vaccins, c'était très court. Pour la défense, ça peut être long. Pourquoi ? Je donne juste l'exemple de la Hongrie, qui n'est pas très d'accord ni avec un budget pour la défense, ni avec une armée européenne, ni à prendre des mesures contre la Russie ou de défense devant la Russie, parce qu'il y a deux choses, contre et de défense. Donc c'est une prise de décision qui risque d'être longue et compliquée. À partir du 1er juillet, on a la présidence danoise du Conseil de l'Union européenne, ce qui est plutôt bien pour cet aspect, puisque les Danois sont aussi conscients du fait que la Russie est une menace et restera une menace. Et donc, comme je disais, les Danois ont déjà décidé d'introduire le service militaire obligatoire pour les femmes aussi. Donc, on peut espérer qu'on va avoir à un certain moment, jusqu'à la fin de l'année 2025, une décision commune et applicable pour tous les 27, parce que, je le répète, pour ceux qui oublient, mais c'est important de comprendre que la Commission européenne ne peut pas disposer, elle propose. Le livret blanc, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas comme une contrainte. Le livret blanc, c'est une feuille de route, c'est une boussole stratégique, comme vous l'avez dit. Donc on a la boussole stratégique, jusque-là on ne l'avait pas. Maintenant, on l'a. Il faut juste l'appliquer. Donc, la Commission européenne a proposé. Est-ce que les autres 27 vont le faire, tous à l'identique? C'est la grande question. Est-ce qu'on va arriver à un pourcentage identique pour tous les États membres du PIB pour la défense? C'est la question. Ce n'est pas une contrainte. On ne peut pas les obliger. On a conseillé. La Commission européenne a conseillé. D'où le problème. Et donc, ces manières de décision au niveau européen ne sont pas des choses qui s'appliquent qu'à la défense. Ce sont définies par les traités. Et il n'y a pas eu de changement de traité. Pour changer un traité, encore, c'est très, très compliqué.
On va bientôt arriver à la fin de cette émission, mais j'ai quand même envie de rebondir. Vous avez parlé de certains pays européens qui justement réfléchissent ou remettent en place ou n'ont pas cessé d'intégrer un service militaire obligatoire dans leur pays. Est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de conscription européenne à l'avenir ?
Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais il faudra sortir d'une certaine réserve qu'observent plusieurs États membres. Par exemple, l'Irlande est neutre. Elle est contre le service militaire obligatoire. Donc on ne peut pas parler d'une conscription européenne. Il y a certains pays qui ont remis le service militaire en place. Les pays de l'Est, Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie pensent à le faire obligatoire, pensent à réfléchir même à la réserve militaire. Tandis que dans l'Ouest, donc la France, l'Espagne, l'Italie ne s'imaginent même pas. Donc c'est clair qu'une telle mesure pourrait faire un électrochoc sur l'opinion publique. Qui est dispo aujourd'hui d'envoyer son frère, son mari, son père, ses amis à la guerre ? La question se pose autrement au moment où on est menacé directement. Est-ce qu'on va l'être ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ce que craignent les Allemands ou les pays de l'Est va se produire ? Est-ce que Poutine va être aussi fou pour attaquer un pays occidental ? Est-ce qu'il peut être aussi fou pour utiliser l'arme nucléaire? Et dans ce cas, ça nous concerne tous. Je pense que dans la difficulté et dans la contrainte, l'Union européenne saura trouver la bonne mesure. Et donc, probablement que si jamais on va arriver à une conscription européenne, ça va être fait exactement comme pour le vaccin. On a la contrainte devant nous, on a le danger de mort, et alors on va agir tous très vite, sans beaucoup penser à des a priori. Cette histoire nous concerne tous, hein, comme disait Camus. Il ne faut pas qu'on oublie que finalement, la France est sortie entière de la guerre grâce aux Américains. On s'en est pas sorti seul. Peut-être que c'est le moment de penser aussi que l'Union européenne est un projet pour la générosité, pour être ensemble, pour la paix et pour s'aider les uns les autres.
Eh bien, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Yulia Badea-Garité, d'avoir été avec nous. Donc, cette émission, je le rappelle, a été consacrée donc, à la défense européenne. À travers cet échange, nous avons tenté de mieux comprendre les enjeux actuels, la nécessité pour l'Union européenne de s'affirmer sur la scène internationale, la complexité de la coopération militaire entre les États membres et les défis posés par les nouvelles menaces, qu'elles soient géopolitiques, technologiques ou hybrides. Un grand merci à vous, Yulia Badea-Garité, pour cet éclairage précieux. Merci. Et également à vous, chers auditeuristes, pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur l'autreradio.fr.
Reconnu centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose l'émission Instant Europe.